15h20 sur France 3 Franche-Comté.
Ils fabriquent des voitures, des montres, des lunettes, des jouets. Ils sont 94 000 ouvriers en Franche-Comté. Quelles sont les évolutions qu'ils ont subies ces dernières années? Quelles sont leurs conditions de travail, leurs rêves? Est-ce qu'ils votent autant Front National qu'on le dit? Que reste-t-il du monde ouvrier? C'est le thème de La Voix est libre d'aujourd'hui et c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de La Voix libre pour une émission donc consacrée au monde ouvrier. Nous avons aujourd'hui sur ce plateau trois invités. Alors tout d'abord Patrick Poisson, ouvrier. Il travaille chez Lactalis, une entreprise d'agroalimentaire à Lons-le-Saunier. Face à lui, Christian Driano, il a été ouvrier durant 40 ans chez Peugeot à Sochaux. Aujourd'hui, il est retraité. Et puis Martial Cavatz, enseignant d'histoire à l'Université de Franche-Comté. Ses travaux portent entre autres justement sur le monde ouvrier. Alors, nous sommes en ce grand week-end du 1er mai, c'est pour ça que nous avons choisi ce thème d'émission et nous allons d'abord nous poser cette question, est-ce que ça a encore une signification pour vous? Monsieur, on va commencer par vous, le 1er mai, est-ce que ça veut dire quelque chose à un ouvrier d'aujourd'hui qui a 37 ans?
Ah ben bien sûr, ça veut dire même beaucoup pour moi aujourd'hui. Alors c'est un rassemblement, pas seulement d'ouvriers aujourd'hui, qui est militant syndical aussi, c'est un grand rassemblement syndical. C'est aujourd'hui aussi un rassemblement européen.
Ça veut dire quelque chose.
C'est quelque chose, et c'est tout un historique, c'est aussi les 8 heures de travail.
Faut rappeler qu'au départ, c'était donc pour obtenir les 8 heures de travail par jour.
Par jour, bien sûr.
Et vous, Christian Driano, le 1er mai, ça vous cause encore ou pas?
Alors déjà, à l'origine, c'est une journée de grève internationale. Et bien sûr, ça me parle parce que aujourd'hui, dans le monde, nous avons des situations où on se croit au 19e siècle. Si on est mineur en Afrique du Sud ou couturière au Bangladesh. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'effectivement, les grèves et les manifestations qui vont avoir lieu dans le monde entier doivent avoir un retentissement important.
Parce que c'est la journée internationale des travailleurs.
Et non pas la fête du travail comme ça l'est devenu, de par la volonté d'ailleurs de Pétain lui-même.
Alors Martial Cavatz, quel est le regard que vous portez, vous, en tant qu'historien, sur ce 1er mai? Est-ce que ça a autant d'impact qu'avant? Il faut rappeler quand même que le 1er mai, au départ, il y a eu des morts.
Oui, aux États-Unis, lors des premières mobilisations, il y a eu des morts. Ça reste un mouvement important, certes moins important qu'auparavant, mais il y a environ 100 000 personnes au niveau national chaque année qui manifestent le 1er mai. Ça reste quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est un moment de sociabilité entre travailleurs. C'est un moment aussi festif et un moment de combat et qui est vraiment bien plus important qu'un autre 1er mai.
Oui, justement, qui est un peu, on va dire, détourné, voire récupéré. Vous faites allusion au Front National. Comment ça se fait que le Front National se soit greffé sur cet événement-là?
Il y a plusieurs raisons. Désormais, il prétend pouvoir s'intéresser aux travailleurs alors qu'il a toujours eu un discours anti-syndical. Et ce qui est vraiment important de signaler, c'est que la mobilisation du Front National est toujours extrêmement bien plus faible que celle des travailleurs. Je n'ai pas eu le temps de regarder les chiffres de cette année, mais ceux de l'année dernière, si on prend ceux de officiels, c'est 5 000 manifestants à Paris, 15 000 pour les ouvriers, donc 5 000 pour le Front National, et je rappelle, 100 000 au niveau national, chiffre officiel, 200 000 selon les syndicats. Donc le vrai rassemblement du 1er mai, le vrai rassemblement populaire, c'est celui des travailleurs.
On va maintenant, pour lancer le débat, regarder ensemble un sujet qui est presque un document, vous allez voir. Il a été diffusé sur France 3 Franche-Comté, on disait à l'époque FR3, en septembre 1977. Et vous allez voir, c'est tourné chez Peugeot, à Sochaux. On regarde.
Le Lyon se porte bien. Rien qu'à Sochaux-Montbéliard, la plus grosse concentration industrielle de France, Peugeot emploie 38 000 personnes. Avec une production de 490 000 véhicules par an, le centre du Doubs assure 65% du chiffre d'affaires du groupe. Depuis la fusion avec Citroën, Peugeot représente la première entreprise française. Inutile de dire que les économistes prennent le pouls de la situation générale auprès de ce secteur automobile. De plus, à une époque où bien les entreprises en sont à craindre le licenciement, Peugeot annonce une campagne d'emploi pour 1000 personnes, rien qu'à Sochaux. Progression très rapide puisque ces derniers mois, 1000 autres ouvriers avaient déjà été recrutés.
Le groupe Peugeot n'a pas cessé de progresser depuis de nombreuses années, vous le savez. Nous avons traversé la période de crise sans trop de difficultés, heureusement pour nous. Il en est vrai d'ailleurs de pratiquement l'ensemble de l'industrie automobile. Et depuis le début de l'année 77, nous avons déjà embauché plus de 1000 personnes. Cela entre le 1er janvier 77 et les congés de cette année. Nous envisageons effectivement pour les derniers 4 mois d'embaucher encore environ 1000 personnes. C'est donc pour faire face à la demande de notre clientèle que nous avons besoin de ce nombre de personnel.
Mais paradoxalement, alors qu'on dénombre plus de 1 million de chômeurs sur le plan national, il est très difficile de trouver ce personnel de fabrication sans qualification particulière. Le volant de chômage est faible dans le secteur de Montbéliard et la campagne nationale n'apporte que peu de résultats, les chômeurs très sédentaires quittant difficilement une région, même si le travail y est fort rare.
Sur le plan régional, nous ramassons le maximum de main-d'œuvre qui peut se présenter. Par contre, lorsque nous envisageons un recrutement au niveau national, nous constatons là que malheureusement, il doit exister au niveau français un certain manque de mobilité qui fait que le personnel vient difficilement s'installer dans l'Est. C'est pourquoi nous éprouvons certainement des difficultés.
Il a fallu plusieurs mois à Peugeot pour recruter 200 personnes qui gagneront à l'issue d'une année de service une moyenne de 2700 francs. La direction met en application des mesures sociales avancées pour inciter les chômeurs de Bretagne ou du Nord à venir s'installer dans l'Est. Mais à l'évidence, il est aussi difficile pour une entreprise de licencier que de réaliser une progression rapide.
Alors Christian Driano, votre réaction ? C'était le temps béni où Peugeot employait 2000 personnes supplémentaires en une année ?
Certainement, oui. Il y a eu des vagues d'embauches massives. Il y avait un besoin considérable. Et puis c'était une main-d'œuvre. Il fallait surtout des bras. À ce propos, j'ai vu arriver un peu avant, des vagues d'immigration qui venaient
oui, parce que M. Sylvan, qui est le patron de Peugeot là à Sochaux, dit que bon, il ramasse, c'est le terme qu'il emploie en Franche-Comté, il lance des appels à la France entière, mais il n'y a pas forcément de mobilité géographique, donc il y a d'autres nationalités qui arrivent à Sochaux.
Bien sûr, les ouvriers yougoslaves sont arrivés en grand nombre. À peu près à la même époque sont arrivés les ouvriers du Maroc et également de Turquie. Mais je constate aussi que beaucoup d'ouvriers, quand même, ont été amenés à quitter leur région, en particulier dans la région du Nord, de la Lorraine, peut-être un petit peu après.
Parce que vous,
Moi, je suis arrivé en 70.
Et vous n'êtes pas originaire de la région ?
Je suis breton d'origine, mais la Bretagne était une région où le chômage était très important et c'est une tradition. Les Bretons, beaucoup montés à Paris, ont dû aller s'installer dans pas mal de régions en France. En fait, les ouvriers vont là où il y a du travail, qu'ils soient français ou qu'ils soient d'origine étrangère.
Patrick Poisson, c'est un fait. Alors vous, je disais tout à l'heure, vous êtes ouvrier chez Lactalis à Lons-le-Saunier, mais à cette époque-là, au début des années 70 et en 1960, vos parents travaillent chez Peugeot à Sochaux.
Voilà, moi, donc en plus, moi je suis né en 77, donc je suis un pur produit des usines Peugeot.
Oui.
Et donc mes parents, on peut dire aussi, moi je trouve que c'est faux ce qu'ils disent, que les ouvriers ne voulaient pas bouger. Hein. Mon père vient de Lorraine et il est venu exprès à Montbéliard pour travailler chez Peugeot.
Voilà. Et vous-même, vous avez passé toute votre jeunesse, votre adolescence à Luxeuil.
Oui.
Et c'est pour trouver du travail que vous êtes parti à Lons.
Moi, je suis parti à Lons, je suis parti dans le Loup, je suis toujours parti là où je trouvais du travail, en fait. Hein. Donc, la mobilité, c'est pas un problème pour les ouvriers. Et tous ceux que je croise, il y en a très peu qui sont restés sur leur site géographique. Les gens sont prêts à bouger pour le travail. Hein. C'était vrai hier comme aujourd'hui.
On va vérifier auprès de l'expert, auprès de l'historien. Alors, est-ce qu'il y a des mouvements de population en fonction des zones qui proposent du travail, que ce soit au XXe siècle ou que ce soit encore aujourd'hui ?
Les ouvriers n'ont pas le choix, contrairement à un discours répandu selon lequel ils préféreraient les indemnités chômage. Quand vous avez une famille à nourrir, vous vous déplacez. Alors on est dans un monde où on fait l'éloge de la mobilité. Il faut quand même signaler que ceux qui vantent la mobilité, n'ont pas les mêmes moyens financiers ni les mêmes conditions de mobilité. Quand vous êtes au SMIC, vous déplacez, ça a des conséquences financières très importantes. Quand vous faites partie d'un autre milieu social, c'est relativement normal. Et ça vous revient moins cher parce que l'entreprise peut parfois
prendre à sa charge.
Ce qui est dramatique, c'est que quand on est jeune, comme c'était mon cas, j'avais 19 ans, c'était pas un problème. Mais aujourd'hui, vu les plans de licenciement importants des usines qui ferment entièrement et des couples avec enfants relativement âgés, qu'on construit, qui sont installés, qui ont leur famille. C'est dramatique pour eux, et on comprend que ce soit un problème, que d'aller chercher du travail ailleurs. Alors, les patrons parlent d'une mobilité nécessaire, mais ce n'est pas une nécessité que de se déplacer pour aller chercher du travail quand on est dans une situation de famille installée.
Les conditions de travail, vous arrivez chez Peugeot, vous avez 19 ans, 1970, quelles sont-elles ?
Les conditions de travail sont très dures parce que c'est une main-d'œuvre qui vend surtout sa force de travail ses bras.
Vous avez quand même un CAP.
Moi, j'ai un CAP, j'ai la chance, je travaille dans un atelier de professionnels. En fait, je dépanne des installations et je vois mes camarades de travail.
Vous n'étiez donc pas à la chaîne ?
Je n'étais pas à la chaîne. Je vois donc mes camarades de travail qui, eux, sont à la chaîne. S'user véritablement, parce que à l'époque, dans les années 70, les horaires étaient bien plus importants que maintenant. On est à 43 heures chez Peugeot. On est à 43 heures chez Peugeot. Et donc, c'est qu'après 68 que les horaires vont progressivement se réduire. Et les ouvriers prennent les postes à 4h15 le matin. On sort à 21h30 le soir. Donc, c'est des conditions de travail qui sont très dures.
Enfin, c'est pas en non-stop.
Il y a des pauses, il y a des casse-croûtes. Mais Peugeot va chercher à 50 et à 70 km par un réseau de bus de la main-d'œuvre salariée pour venir produire des voitures à Sochaux.
Alors aujourd'hui, donc vous êtes le jeune, vous, le jeune ouvrier sur ce plateau, c'est vous le jeune. Les conditions de travail, ça s'est amélioré quand même en 40 ans par rapport à ce que raconte Christian Driano. C'est encore difficile, c'est physique.
Alors les conditions de travail, elles se sont améliorées avec les techniques, bien heureusement. Hein. Mais pas que. Hein. Aujourd'hui, on travaille encore en 3-8.
Vous travaillez en 3-8. Donc il faut dire, c'est des horaires décalés. C'est où vous prenez à 5h le matin.
Voilà, 5h, 13h, 13h, 21h, 21h, 5h. Et ça, avec un changement chaque semaine. Donc ça emmène une certaine pénibilité. Donc aujourd'hui, oui, c'est vrai, on a des machines plus performantes qui nous permettent peut-être de travailler mieux. Mais il faut savoir aussi qu'en 30 ans... la productivité a quadruplé. Par exemple, là où je travaille, dans les années 80, on faisait 4 fois moins que ce qu'on fait aujourd'hui.
C'est des produits agroalimentaires, principalement du fromage fondu.
Dans le même sens, l'intensité du travail s'est considérablement aggravée. On demande beaucoup plus aujourd'hui.
Mais dans les années 70, on parlait des cadences qui étaient très...
Aujourd'hui, les cadences sont extraordinaires, difficiles à tenir.
Et alors vous, ce que je disais, vous êtes jeune, et pourtant, j'allais dire, vous êtes déjà cassé. Vous avez déjà des problèmes de dos, vous avez déjà des hernies discales.
Oui, c'est un problème. Après, on peut améliorer les conditions de travail, mais il restera toujours des travaux manuels et pénibles à accomplir. Hein. Après...
Avez déjà changé d'atelier à l'intérieur de votre entreprise.
J'ai déjà changé d'atelier, oui, j'ai fait le dernier
discale. Et vous n'avez pas 40 ans, quoi.
J'ai pas 40 ans. Bon, voilà, après... Il y a aussi un problème de personnel, hein, puisque justement le problème des cadences, c'est qu'on demande beaucoup de plus en plus de travail, avec de moins en moins de personnel quelque part. Et donc du coup, le corps supporte pas, quoi.
Il faut dire que le travail ouvrier a toujours été un travail difficile.
C'est déjà un travail manuel, au
départ. Vous parliez tout à l'heure de l'exemple de Peugeot. Il y a un excellent petit documentaire qui s'appelle « Avec le sang des autres » de Bruno Muel, où un ouvrier raconte comment ses mains ont été détruites par le travail et comment il a du mal à tenir son propre bébé dans ses mains. C'est relativement émouvant. On fait une glorification de l'époque bénie des Trente Glorieuses sous prétexte qu'il y avait...
Donc, rappelons, les Trente Glorieuses, 1950-1980, parce qu'il y avait pratiquement du boulot pour tout le monde.
Voilà, alors ça s'arrête un peu, commence au début des années 70 à s'arrêter, mais il faut savoir que c'est un moment où le travail est extrêmement difficile, où les gens sont soumis à des produits chimiques parce qu'il n'y avait pas toutes les normes qu'il peut y avoir aujourd'hui. Et c'est un temps de conflictualité très importante dans le monde du travail qui montre que ce n'était pas un temps si heureux que ça.
Oui, justement, vous voyez actuellement donc des images en noir et blanc qui passent. Ce sont des images donc de chez La Rodia, par exemple, à Besançon, lors d'une grande grève en 67. C'est les manifestations de mai 68, c'est des images de Peugeot, des images de l'Alstom. Il faut dire quand même qu'à ce moment-là, selon les historiens, la conscience même d'être ouvrier naît avec les luttes syndicales pour obtenir soit de meilleures conditions de travail, soit de meilleurs salaires, voire pourquoi pas les deux.
Ben oui, la classe ouvrière, en fait, elle naît de par ses luttes. Il n'y a pas une classe ouvrière qui existerait en soi, c'est-à-dire il y a une différence entre l'objectif et le subjectif. Et la classe ouvrière, c'est un groupe mobilisé qui a une culture commune et qui perçoit des intérêts communs. Et c'est vraiment dans ces luttes qu'elle a existé de manière très visible dans le monde social des années 30, à partir du Front populaire, jusqu'aux années 70. Et aujourd'hui, elle est un peu effacée et éclatée.
Vos parents étaient ouvriers ?
Oui.
Vos parents étaient ouvriers ?
Oui, ils l'ont été, oui. Enfin, pas toute leur carrière, mais ils l'ont été.
Ça aussi, c'est une caractéristique du monde ouvrier. Les enfants d'ouvriers deviennent ouvriers à leur tour.
Ben, il y a eu effectivement, pendant un moment donné, une forte hérédité du monde ouvrier. Mais ce qui a pu disloquer aussi le monde ouvrier, c'est la perte d'hérédité. Ça a été montré dans de nombreuses études. Les enfants avaient honte du métier de leurs parents et souhaitaient faire tout sauf ouvrier. Ça s'est trouvé dans les années 70-80.
Et les parents voulaient surtout que leurs enfants ne soient pas ouvriers. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas leurs conditions d'existence difficiles. Et donc les parents poussaient leurs ouvriers à faire des études.
Leurs enfants.
Voilà, leurs enfants à faire des études.
Patrick Poisson, vous êtes honteux d'être ouvrier ?
Ah, moi, je ne suis pas du tout honteux. Même si mes parents, c'est vrai, ont voulu, comme tous les parents, je pense, ont voulu me pousser à faire des études. Après, quand j'ai décidé de reprendre un CAP, de devenir ouvrier, voilà, ça a choqué personne. Après, mon père qui a été ouvrier, il savait très bien qu'on peut gagner sa vie. Enfin, pour lui, à l'époque, on pouvait gagner sa vie en étant ouvrier. C'est vrai qu'après, il savait pas ce que ça allait devenir aujourd'hui. Quand on est ouvrier aujourd'hui, qu'on a un SMIG, on fait plus vivre une famille comme on pouvait le faire dans les années 70 ou avant.
Christian Driano.
Moi, je suis fier. Je suis fier de mon parcours. Et je suis fier d'avoir été militant d'une classe sociale, la classe ouvrière.
Vous êtes tous les deux militants à la CGT.
Oui, tous les deux
militants. Et vous avez un engagement politique à lutte ouvrière.
J'ai un engagement politique à lutte ouvrière. Mais je suis fier de ma classe parce qu'au fond, on est une classe de producteurs et nous avons en face de nous une classe d'exploiteurs. Et comme il était dit, nous avons toujours dû lutter.
Mais ça, c'est pas générations précédentes. Mais c'est pas un schéma un peu dépassé, qui sent un peu le 19e siècle, là ? D'un côté, les ouvriers, de l'autre, les exploiteurs et les riches ?
Eh bien, ça n'a pas changé. Je vous mets au défi de me prouver le contraire. Vous savez, à Colombier-Fontaine, dans la région, il y a 5 ouvriers qui sont en procédure de licenciement parce qu'ils veulent monter un syndicat CGT. Et l'exploitation, croyez-moi, elle est féroce. Quand les patrons n'obtiennent pas leurs objectifs, que leur fixent leurs actionnaires, ils réduisent et ils sont capables de ruiner des régions entières, fermer des usines, les déplacer, aller exploiter une main-d'œuvre meilleur marché.
Mais en quoi vous êtes fier d'appartenir à cette classe-là ?
Je suis fier parce que ma classe sociale peut porter un avenir d'un monde nouveau, débarrassé de l'exploitation. Alors, c'est le combat des socialistes du siècle dernier, qui n'ont rien à voir avec les socialistes d'aujourd'hui qui servent la soupe aux bourgeois. Mais je suis fier, oui, du mouvement ouvrier, de ce qu'il porte, de son passé. Comprenez qu'aujourd'hui, nous profitons encore des acquis, des grandes luttes sociales, pour ne pas remonter encore plus avant, de 1936, ne serait-ce que pour les congés payés. Et puis de 68.
Et un, ça, peu, c'est... 80, ça... et un peu de 81 pour la retraite à 60 ans, la cinquième semaine de congé payé, tout ça.
Non,
ça
vous... je ne mets pas ça sur le même plan. Vous savez, d'ailleurs, ça a été repris. Je ne mets pas ça sur le même plan. Mais les grandes conquêtes sociales dont nous bénéficions aujourd'hui, c'est historiquement la classe ouvrière, alors, les ouvriers en grève qui les ont tenus.
Mais les ouvriers maintenant pèsent beaucoup moins que par les années passées. Vous êtes, je disais, 94 000 en Franche-Comté. Vous êtes, enfin je dis vous, mais vous n'êtes plus ouvrier, vous
Est-ce
êtes retraité.
Est-ce que vous comptez les caissières de magasins?
Non, ça c'est les employés.
Mais ce mais sont
non,
des
mais attendez,
employés
c'est
mais
pas moi.
Qui font
c'est...
un travail d'ouvrier.
Non, non, on est bien d'accord, mais ça, ce sont des employés, puisqu'on vient de voir passer donc un tableau qui donne le poids du monde ouvrier dans la société en général et dans la population active. Du fait que vous êtes moins, que vous pesez moins dans la population active, vous avez quand même moins de poids pour vous faire entendre, non ?
Écoutez, quand on arrête le travail, on s'aperçoit quand même que les ouvriers, ils ont du poids. Parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a, avez... a rien qui est produit, les profits sont tarés.
On voit par exemple que le monde ouvrier en Franche-Comté, c'était 183 000 personnes donc en 75, que les derniers chiffres que l'INSEE nous a donnés, c'est 2011 et c'est 94 000. Vous pouvez moins vous faire entendre quand même.
Et là où je serais d'accord avec vous, c'est que la classe ouvrière, elle a pris des coups. Rendez-vous compte que 5 millions de chômeurs en France, qui sont jamais que des ouvriers sans emploi, ça pèse considérablement sur le niveau des luttes.
C'est pas tous des ouvriers.
C'est pas tous des ouvriers, mais en grande partie quand même.
Les ouvriers qui sont plus touchés. Pardon. C'est les ouvriers qui sont quand même le plus touchés par le chômage. Il y a quand même plusieurs.
Parce qu'il y a moins de qualifications déjà.
C'est ça, mais il y a plusieurs points quand même à signaler. C'est que les ouvriers demeurent un groupe quand même important. On est à peu près à 20% de la population active. Et la raison de la faible combativité, c'est plus la perte des instances représentatives de la classe ouvrière comme le Parti communiste ou le principal syndicat qui est la CGT, et aussi la stratégie réellement antisyndicale des employeurs. Plusieurs exemples, à partir des années 78, il y a au CNPF une politique consciente.
Alors le CNPF, c'est l'ancêtre du MEDEF,
c'est ça.
Je parle pour les moins de 30 ans.
Et il y a une politique consciente de division du monde ouvrier en individualisant les carrières. Et il faut voir aujourd'hui que le monde ouvrier est touché par la précarité, par les contrats type CDD, par l'intérim, tout type de contrats qui rendent difficile la lutte. Et ce n'est pas vraiment un problème de nom, mais plus un problème qu'on a divisé ce monde ouvrier. Et l'ancien ouvrier de Peugeot parlait de la répression syndicale. Il est bien placé pour la connaître dans sa propre usine, puisque Peugeot, en 1998, a reconnu avoir entaché la carrière de plus de 80 personnes et a reconstruit les carrières afin d'éviter une condamnation.
D'ailleurs, vous en étiez. Donc, il y a eu un procès en discrimination syndicale que la CGT a gagné. Vous m'aviez dit, quand on a préparé cette émission, vous êtes rentré donc chez Peugeot à 19 ans. 27 ans plus tard, vous aviez toujours le même grade, le même échelon. Vous étiez
oui.
P1.
Voilà.
C'est-à-dire que vous n'avez pas eu d'augmentation de salaire pendant 27 ans.
Exact. La seule promotion que j'ai eue, c'est quand Peugeot a été condamné donc à réajuster les catégories et les salaires des salariés qui avaient fait la preuve qu'ils avaient été discriminés.
Patrick Poisson, est-ce que c'est dur aujourd'hui d'être syndicaliste encore quand on est ouvrier dans une entreprise ?
Ah bien sûr, c'est dur. Et puis je reviendrai sur ce que monsieur disait. Oui, c'est vrai que avant, dans les entreprises, il y avait un certain esprit d'équipe. Les gens travaillaient ensemble, ils étaient soudés. Aujourd'hui, ce qu'a mis en place le patronat... C'est ben déjà, on a chacun ses pauses individuellement. On n'a même plus un temps pour se retrouver ensemble pour discuter. Le patron s'arrange aussi pour différencier les salaires. De rien, hein, 10 centimes de plus à l'un, 10 centimes de moins à l'autre. Voilà, les gens donc se sentent individualisés.
Mais ça, c'est de solidarité. Vous êtes en train de parler d'une solidarité,
oui,
qui n'existe plus.
Si. Qui a encore, mais qui est mise à mal.
Qui est mise à mal et qui a diminué ces dernières années.
Et qui a été mise en place par le patronat.
Christian Driano.
Écoutez, les grands moments...
Parce qu'on dit qu'il n'y a plus de solidarité, vous dites si. Alors,
si, reste la solidarité par nécessité. On est bien obligé, dans un atelier, quand on est confronté à des problèmes, d'être solidaire. D'ailleurs, une des manifestations de la solidarité, c'est les mouvements sociaux. Il y en a marre, on arrête, on revendique...
Tapez pas sur la table, elle vous a rien fait, la table, elle vous a rien fait.
On revendique des augmentations de salaire et on renoue avec une solidarité importante. Moi qui ai vécu les grèves de 1989, je peux vous dire qu'on
donc
a vécu...
Peugeot, qui a duré plus
voilà,
d'un
qui
mois.
A duré 5 semaines, je peux vous dire qu'on a vu des moments de solidarité formidables.
Oui, ça c'était 89, vous faites un peu ancien combattant, ça arriverait maintenant, qu'est-ce qui se passerait?
Ben, il se passerait la même chose. Que croyez-vous que les ouvriers feraient s'ils retrouvaient le chemin des luttes? Mais ça, qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas pour demain? Moi, je suis confiant dans l'avenir.
Quand les ouvriers se mobilisent, ils obtiennent des choses. Hein. Dans le Jura, à Lons-le-Saunier, par exemple, j'ai souvenir de SKF. Voilà, ils étaient sur une négociation générale. Ils ont demandé 2,5% d'augmentation. Le patron n'a pas voulu, bien évidemment. Tous les syndicats se sont mis d'accord. Ils se sont mis en grève. En 24 heures, c'était réglé. Ils avaient leur augmentation générale.
Oui, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'actuellement, les mouvements sociaux ont changé de visage? Moi, je me souviens, il y a 20 ans ou 30 ans, quand dans une entreprise, on disait, bon, on va fermer l'entreprise, les gens se battaient pour maintenir le site, pour maintenir leur outil de travail. Aujourd'hui, ils se battent pour avoir de plus fortes indemnités de licenciement. C'est quand même un énorme recul, un énorme échec.
Je vous concède que c'est plus difficile et je vous concède aussi que la classe ouvrière, elle a pris des coups terribles. Elle a reculé sur certaines positions. Le patronat et le gouvernement en profitent pour en remettre tous les 3 mois une couche. Mais la capacité de répondre et de se mobiliser des travailleurs en général, elle reste.
Le regard de l'historien, ces dernières années, il y a eu quand même beaucoup moins de conflits sociaux pour des améliorations de salaire ou des améliorations de conditions de travail.
Oui, en fait, c'est que la conflictualité prend des formes différentes. Ça a été étudié par des politistes, notamment Sophie Béroux à Lyon. C'est que c'est moins visible. En fait, il y a moins. On compte la conflictualité en termes de jours de grève. Et désormais, ça peut être des déblayages d'une heure ou des conflits.
Parce que les gens n'ont plus vraiment les moyens non plus de se mettre en grève comme en 89, 5 semaines à Sochaux chez Peugeot.
Ils ont certes plus les moyens. Ils ont plus aussi les instances d'encadrement puisque Peugeot était une très grande entreprise avec des syndicats. Et quand vous êtes dans une petite PME, vous n'avez pas forcément de syndicat, surtout que tout est fait pour qu'il n'y en ait pas.
Et quand on est dans une petite entreprise, est-ce qu'il faut mettre les ouvriers, les syndicats et les patrons dans le même sac? Parce que tout à l'heure, donc, Christian Driano nous disait que tous les patrons sont des exploiteurs, mais tous les patrons ne sont pas au CAC 40.
Non, il faut faire attention. Le patron de base d'une PME va avoir des revenus autour de 3 000, 4 000 euros. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il ait forcément les mêmes intérêts que ses employés. Mais ce n'est pas dramatique en soi. La vie est faite de compromis entre intérêts divergents et il faut trouver des instances de médiation pour que chacun s'y retrouve.
Mais je pourrais aller dans ce sens-là. Mais ceux qui donnent le ton dans le pays, c'est le CAC 40 et les banques qui sont avec. C'est eux qui exigent et en cascade, ça descend vers
les sous-traitants.
Jusqu'aux sous-traitants, aux PME, où la pression est considérable.
Mais quelquefois, les chefs d'entreprise sont aussi victimes que les ouvriers du CAC 40
alors,
et des patrons
d'honneur
d'or.
Quand je parle des patrons, je parle du patronat, je parle de la bourgeoisie, de ceux qui ouvrent leur journal et puis qui regardent les cours en bourse pour savoir ce qui leur tombe dans la poche. Et je caricature à peine la situation. Ça, c'est le sommet de la classe sociale qui régente l'ensemble de la production et des profits qui sont dégagés par le travail salarié. Et bien c'est contre ces féodalités, parce qu'ils en sont des féodaux, qu'il faut croiser le fer.
Alors, c'est la fin de cette première partie. On va revenir après le journal de la mi-journée pour parler donc d'autres sujets, et notamment du poids politique des ouvriers, et savoir s'ils votent vraiment Front National, autant qu'on le dit. Donc, à tout de suite. Pour le moment, c'est l'heure du journal de la mi-journée. À tout de suite.
Ce journal, merci de votre fidélité. Rendez-vous ce soir, 19h.
Merci beaucoup. Rendez-vous ce soir pour le journal à 19h. Alors bonjour à ceux qui nous rejoignent. Nous parlons donc actuellement dans La Voix libre d'aujourd'hui du monde ouvrier. Je vous présente à nouveau donc les 3 invités qui débattent sur ce plateau. Tout d'abord, Patrick Poisson, vous êtes ouvrier chez Lactalis à Lons-le-Saunier. Face à vous, Christian Driano, ancien ouvrier chez Peugeot à Sochaux. où vous avez travaillé durant 40 ans, maintenant vous êtes retraité, et puis Martial Cavatz, qui est enseignant d'histoire à l'Université de Franche-Comté. Alors, on parle souvent des ouvriers en période d'élection, quel que soit d'ailleurs le scrutin et l'élection en question, en disant qu'ils votent massivement pour le Front National. Vous, vous êtes sur le terrain avec des ouvriers, est-ce que vous avez ce ressenti-là ?
Alors moi, je n'ai pas ce ressenti-là du tout, hein, parce que massivement, c'est sûrement pas le mot. Après, il y en a sûrement qui votent Front National, mais je pense que c'est des gens qui votaient avant Front National. Enfin, c'est pas... Moi, je n'ai pas l'impression que ça a évolué. Après, que certains ouvriers qui votaient à droite soient radicalisés, c'est possible. Après, moi, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas s'ils votaient.
Mais exactement. Autour de vous, dans votre atelier, dans votre entreprise, ça parle pas trop Front National ?
Ça parle pas trop Front National. Ce qui se parle beaucoup, c'est la déception qu'ils ont aujourd'hui avec le gouvernement en place. C'est ça surtout que j'entends.
Alors, Christian Driano, est-ce que les ouvriers votent massivement Front National ?
Il y en a beaucoup, sans doute trop. À mon avis, ils se tirent une balle dans le pied parce que le Front National, quand il s'occupera d'eux, ils la sentiront passer. Mais c'est vrai que les ouvriers... qui ont voté ou qui sont tentés par le vote Front National sont surtout désorientés. Ils ne savent plus où ils habitent. Ça vient en grande partie, en très grande partie, des coups que leur a portés la gauche.
Quand vous dites la gauche, c'est la gauche de gouvernement.
La gauche de gouvernement.
Qui n'a pas répondu à leur espoir.
Vous savez, le Front National, il décolle dans les années 80. Bon. Les premiers plans d'austérité en 82-83, ça produit déjà les premiers dégâts. Des ouvriers, je l'ai vécu, sont écœurés. Ils avaient cru les promesses de l'union de la gauche avec le Parti communiste au gouvernement. Ça allait être, vous allez voir ce que vous allez voir. Et comme très rapidement, ils n'ont rien vu, eh bien, ils se sont effectivement...
Alors, vous parliez tout à l'heure.
Ils ont été très déçus.
Et vous parliez tout à l'heure des vagues d'immigration que vous avez connues à Sochaux, chez Peugeot, que ce soit des Turcs, des Marocains, etc. Et est-ce que, justement, l'immigration, est-ce que l'ouvrier s'est senti en danger par rapport à des ouvriers qui arrivaient d'ailleurs et qui étaient peut-être plus malléables ?
Mais pas à l'époque. À l'époque, il y avait du boulot. Les travailleurs immigrés étaient très bien accueillis et s'intégraient relativement bien, je vous l'assure. Les problèmes de racisme ou des propos que l'on peut aujourd'hui entendre assez couramment, ce n'était absolument pas le cas. C'est l'évolution dramatique du chômage qui a fait que la société a mis les ouvriers en concurrence entre eux, bon, pour se partager la misère. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de travailleurs sont effectivement désorientés parce qu'ils se sont sentis trahis à plusieurs moments des trois dernières décennies.
Parce qu'il faut bien dire que dans le monde ouvrier, il y a deux catégories faibles, si j'ose dire, les femmes et les travailleurs immigrés. Au cours de l'histoire, c'est ça ?
Oui, c'est à peu près un tiers des femmes dans certains secteurs. Et les immigrés, on y a fait appel dès la fin du 19e. Et le racisme, il n'apparaît qu'en période de crise. Aujourd'hui, ce sont les personnes d'origine maghrébine qui sont pourtant pour la plupart de nationalité française. Mais rappelons-nous un petit événement historique. En 1893, à Aigues-Mortes, les ouvriers français massacrent une dizaine d'Italiens. À l'époque, on pensait que les Italiens, les Polonais n'étaient pas intégrables et pourtant ils avaient la même religion que nous, mais on estimait qu'ils ne la pratiquaient pas comme nous. On peut lire le roman de Cavanna, L'Hérital, parce que Cavanna est mort l'année dernière, puis qu'on a beaucoup parlé de Charlie Hebdo, il en était le fondateur. Il se faisait insulter de macaroni, ce qui est l'équivalent de ce qu'on dirait aujourd'hui de bougnoule. Donc le racisme, il n'existe en fait qu'en période de crise. Concernant le vote ouvrier, j'aurais une vision plus nuancée.
Parce que les ouvriers ne votent pas forcément à gauche. C'est souvent une idée qui est répandue. Ils ne votent pas non plus au fil du XXe siècle comme un seul homme pour les candidats de gauche.
Non, il y a toujours eu une partie de la classe ouvrière qui était conservatrice, catholique dans une version conservatrice, attachée à un certain nombre de valeurs morales et qui se retrouvait plus facilement dans le vote à droite. Le moment où les ouvriers votent...
Alors, le vote à droite, pendant une grande période, ça a été le gaullisme.
Oui,
les ouvriers votaient massivement pour Charles de Gaulle et ses représentants.
Tout à fait. Et le moment où les ouvriers votent le plus à gauche, c'est en 1981, au moment du programme commun, et ils ne sont que 70%, c'est-à-dire qu'il y a 30%...
On rappelle, toujours pour les moins de 30 ans, on rappelle, 1981, c'est l'élection donc, du président socialiste François Mitterrand. Donc c'est à ce moment-là...
qu'on a le plus fort vote à gauche, et on n'est qu'à 70% de vote ouvrier. Concernant le dégoût des ouvriers... les enquêtes sérieuses qui sont faites par les politistes démontrent qu'ils se manifestent par l'abstention. L'abstention...
Oui, vous dites le premier parti ouvrier, c'est déjà le parti de l'abstention.
Tout à fait, les études le démontrent. Hein. Il y a une proportion importante des ouvriers qui votent, qui vont voter Front National, certes, mais la très grande majorité des ouvriers ne votent plus, ou une partie d'entre elles n'est même pas inscrite sur les listes électorales. On est face à une catégorie sociale qui, à plus de 60%, ne vote pas. Donc les scores du Front National sont à relativiser par rapport à ce très faux score de l'abstention.
Oui, parce que les ouvriers, c'est l'une des catégories socio-professionnelles de Français qui votent le moins.
C'est ça.
Hein, c'est ça. Hein,
c'est les milieux populaires en général qui votent le moins. Et concernant le vote ouvrier au Front National, ce sont les ouvriers les mieux installés en fait qui votent Front National. Les ouvriers les plus précaires, soit ils s'abstiennent, soit ils continuent à voter à gauche.
Parce qu'on n'en a pas parlé, mais donc Christian Driano a fait, si j'ose dire, si je veux m'exprimer ainsi, 40 ans chez Peugeot. Donc vous êtes dans une entreprise déjà depuis un petit moment. Le mot qui vient d'être lâché, c'est précaire, précarité. Est-ce que ce n'est pas ça aussi la caractéristique maintenant du monde ouvrier, de l'intérim, du CDD, court ?
Ah mais tout à fait, c'est revendiqué par nos patrons. Hein. Aujourd'hui, les CDD, les intérims, c'est clairement une variable d'ajustement, c'est présenté comme ça. On se sert des précaires voilà, pour quand il y a un peu moins de travail ou un peu plus, ou clairement.
Donc c'est ces gens-là.
L'humain devient une variable d'ajustement.
C'est ces gens-là qui se sentent le moins concernés par la chose publique, la chose politique.
Il y a d'autres facteurs. Après, ces gens-là, bien sûr, ils se sentent moins concernés, mais je pense qu'ils ont, aussi de la solidarité. Après, vous savez, quand vous êtes payé 1200 euros par mois et que vous voyez qu'on ne fait rien pour vous, que rien ne se passe, vous cherchez des solutions, quelquefois les mauvaises. Voilà, enfin, c'est mon point de vue.
Christian Driano.
Oui, je voulais revenir sur ce qu'on appelle le vote ouvrier. C'est un peu trompeur aussi. Parce que moi, qui ai vécu quelques conflits, je me suis retrouvé en grève avec des ouvriers qui étaient gaullistes, avec des ouvriers qui étaient chrétiens.
Dans les organisations syndicales, il y a des ouvriers de droite.
Comment ?
Dans les organisations syndicales, il y a toujours eu des tendances de droite, à Force ouvrière notamment, dans la métallurgie, c'est connu.
Tout à fait, tout à fait. Mais quand les ouvriers croisent le fer avec leur employeur sur le terrain disons, de la lutte des classes, toutes ces appréciations vues différentes, générales sur la politique, elles disparaissent. Parce que la solidarité qui existe entre ouvriers en combat, eh bien, elle consiste à vouloir que tout le monde se réunisse sur le même objectif. Et c'est ça qui fait la force de la classe ouvrière. C'est là qu'elle trouve sa solidarité et c'est là qu'elle se fait craindre. Alors, le vote, c'est une fois de temps en temps. C'est le dimanche matin, on met un bulletin dans l'urne, ni vu ni connu. Mais la réalité sociale, le poids des ouvriers... Pour ma part, il est à mesurer, surtout dans l'activité sociale, quotidienne etc.
Oui, et je suis d'accord avec vous, la vie politique ne peut pas se résumer aux élections. Et surtout, je ne pense pas que les ouvriers se désintéressent de la politique. Je pense que c'est la politique qui se désintéresse des ouvriers. Est-ce qu'on entend beaucoup parler des ouvriers dans les programmes politiques? Non, Jospin avait réussi à faire campagne en 2002 sans prononcer le mot « ouvrier ». Ils sont quasiment absents de la scène, et quand ils sont mis sur la scène, c'est pour les dénigrer sur leur vote éventuel d'extrême droite, sur leur goût culturel. Il y a toute une volonté de casse, en fait, de la représentation du monde ouvrier sur la scène publique.
Vous êtes d'accord avec... Oui, quand on parle des ouvriers, c'est qu'on en parle en mal, quoi.
Si vous voulez, les travailleurs, c'est pas une classe sociale qui est valorisée dans la société. On va valoriser plutôt l'employeur, on va plutôt valoriser...
Les professions intellectuelles comme universitaires.
On va plutôt favoriser les professions intellectuelles universitaires ou journalistiques. L'ouvrier smicard, personne n'envie sa situation, ni lui demande de décliner ses diplômes.
Alors qu'on devrait le faire.
Pardon ?
Les enseignants ne sont pas valorisés dans notre société, ça ne nous a pas échappé quand même.
Non plus. Hein, je pense qu'on devrait le faire, valoriser les ouvriers, puisque c'est eux qui détiennent le savoir-faire. C'est eux que, enfin, moi aussi, enfin, je pense que je suis assez fier de quand je. Enfin, on aime, l'ouvrier aime bien travailler, on aime faire des beaux produits, on aime que nos produits, même si ce n'est pas nous qui récoltons les bénéfices, on aime que ces produits-là ils soient vendus dans le monde entier. En fait, l'ouvrier veut que son entreprise marche, hein, clairement. Après, il voudrait juste avoir la reconnaissance juste de son travail.
Et l'enjeu est là, c'est-à-dire mieux reconnaître les ouvriers, ça serait mieux reconnaître leur travail et peut-être leur donner des droits supplémentaires par rapport à ceux qu'ils ont. Donc on n'a pas forcément intérêt à mieux les reconnaître et on a plutôt intérêt à jouer avec la variable du chômage qui est utilisée aussi, parce que beaucoup d'économistes le démontrent, il y a un choix qui est fait d'un chômage
massif. Ah, vous êtes en train de nous parler d'un complot ?
Pas du tout un complot, il n'y a pas de complot, c'est un choix économique d'une politique de rigueur. Il n'y a absolument pas de complot, ce n'est pas des petites mains qui se réunissent par derrière. Non, il y a des choix qui sont faits plus ou moins conscients, parce qu'évidemment, on ne détient pas tout.
Il y a qu'à voir avec les lois Macron qu'on a de plus en plus de droits aux travailleurs. Hein.
Donc Patrick Poisson disait qu'il était fier de ses produits qui vont dans le monde entier. Vous, quand vous voyez circuler une Peugeot, vous êtes fier ?
Je sais que les ouvriers sont fiers du travail qu'ils font.
Mais vous, quand vous étiez encore en activité ?
Moi, personnellement, les voitures, ce n'est pas ma tasse de thé.
Il a passé 40 ans de sa vie, mais ce n'est pas son... Voilà.
Non, on peut fabriquer plein de choses sans pour autant être amoureux du produit. Mais c'est vrai que les travailleurs aiment... leur travail, aiment bien le faire et aiment le produit qu'ils réalisent. Ça, c'est une
réalité. Il reste un peu plus d'une minute dans cette émission. Donc, je disais, vous êtes donc un ancien ouvrier, ancien syndicaliste. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner à ce jeune ouvrier et jeune syndicaliste ? Rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps.
Croire en sa classe sociale. Être dévoué pour elle. Et il sera récompensé. Parce que je pense, moi, que... l'avenir, les travailleurs dans leur généralité reprendront le combat. Vous savez, les travailleurs n'ont pas le moral. Bon, mais le moral, il y a des hauts et il y a des bas. Aujourd'hui, c'est bas, mais le moral va revenir.
Martial Cavatz, vous voulez parler d'un livre donc écrit par un universitaire bourguignon. Comme on n'est pas sectaire, on parle d'un bourguignon dans cette émission. Alors, de quoi s'agit-il exactement ?
Eh ben,
en 20 secondes.
Xavier Vignat, qui est maître de conférence à l'université de Dijon, qui a fait sa thèse sur l'insubordination ouvrière de 1968 à 1981, a produit en 2012 une synthèse sur l'histoire du monde ouvrier au XXe siècle, qui est accessible au grand public et qui traite des nouvelles les plus récentes.
Ben merci messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Donc je vous souhaite un bon après-midi, un bon samedi après-midi et un bon week-end du 1er mai. Au revoir.